Bienvenue au podcast Le Sac du Cœur. Mon nom est Didier Hormé-Juste et cette semaine au podcast, eh bien, on va mettre la table pour le match de la 107e Coupe Grey qui mettra aux prises les Tiger Cats de Hamilton aux Blue Bombers de Winnipeg. Pierre Vercheval va se joindre à moi afin de mettre la table. En compagnie de Pierre, bien sûr, on va faire une revue de la dernière semaine, du dernier dimanche d'activité dans la NFL. C'est la 11e semaine d'activité. Il y a eu des résultats surprenants comme les Ravens qui ont complètement dominé les Texans de Houston, les Patriots qui ont défait les Eagles de Philadelphie. Alors, comme à l'habitude, il y a beaucoup de pain sur la planche. Ce ne sont pas les sujets qui manquent. Alors, le podcast Le Sac du Cœur commence à l'instant. Pierre, merci d'avoir pris de ton temps pour passer en studio.
Merci, nos lundis
sont toujours occupés, là, avec toute la revue de la NFL, tout ça, les interventions aux émissions. Je sais que tu participes à des émissions de radio également. Alors écoute, bon, sans plus tarder, on va commencer avec la Ligue canadienne. C'était bien sûr les deux finales, la finale de l'Est. On aurait aimé voir les Alouettes affronter les Tiger Cats à Hamilton au Tim Hortons Field. Bon, ce sont les Eskimos d'Hamilton qui se sont présentés là. Mais ça n'a pas été le même genre de performance qu'on avait eu droit de la part de Trevor Harris et de l'attaque d'Edmonton la semaine précédente.
Il fallait s'en douter un petit peu, Didier, parce que quand tu repenses à la victoire des Eskimos contre les Alouettes, on a vu Trevor Harris qui a frôlé la perfection.
Oui, 22 en 22 pour commencer le match.
Trois interceptions contre Vernon Adams. Les Eskimos, l'équipe la plus indisciplinée, seulement trois pénalités. Tout ça pour dire qu'on a presque joué un match parfait chez les Eskimos d'Edmonton. Mm. Et tu te souviens? Avec trois minutes à jouer, les Alouettes perdaient seulement par cinq points.
Malgré tout,
tu sais, on était encore dans le coup, malgré le fait qu'on
a dominé au niveau du temps de possession.
Alors moi, dans ma tête, je me suis dit, quelles sont les chances que les Eskimos peuvent recréer cette recette-là à Hamilton? Moi, je les aimais pas, leurs chances. Et je me disais que Hamilton était pas mal plus équipé en défensive pour affecter le travail de Trevor Harris. Puis c'est un peu ça qui est arrivé. On a réalisé des interceptions, on l'a rejoint à quelques reprises. On n'a pas eu un début de match canon du côté des Eskimos. Ce sont les Tiger Cats. Et on va dire bravo aux entraîneurs et aux joueurs parce que, tu sais, après une semaine de congé, tu sais jamais comment tu vas réagir. Ça faisait plusieurs semaines que les Tiger Cats jouaient du football qui, entre guillemets, ne voulait rien dire.
Oui, c'était assuré du premier
rang. Et là, on gagnait 13-0 après le premier quart. Boum, on a donné le ton au match.
Oui, ça a commencé avec un revirement. En fait, les Eskimos ont fait cadeau du ballon aux Tiger Cats à cinq reprises. Mais le joueur dont moi j'aimerais te parler, c'est Dane Evans. Parce que Dane Evans en est juste à sa deuxième année dans la Ligue canadienne de football. Puis moi, je me disais, pour moi, il représentait un point d'interrogation. Étant donné qu'il s'agissait du premier match éliminatoire de sa carrière, il a très bien fait en remplacement de Jeremiah Mazzoli. Mais là, je me disais, c'est en éliminatoire, une victoire d'une participation à la Coupe Grey, il y a beaucoup de pression, ça va être complètement différent. Puis écoute, encore une fois, il a fait preuve de sang-froid et il a gagné ses six derniers départs.
Oui, puis et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, c'était son premier départ en éliminatoire, comme tu l'as dit. On sait ce qui est arrivé à Vernon Adams à son premier départ en éliminatoire, trois interceptions. Alors là, on disait, les Eskimos, encore une fois, vont jouer contre un jeune quart qui est dans son premier départ. Vont-ils en profiter? Non. Puis en plus, il a super bien joué. Il n'a pas complété, c'était pas des statistiques ronflantes, c'était pas 75% de passes complétées, mais ce qu'il a fait, il l'a bien fait sans avoir de support du jeu au sol. Mm-hmm. Tu sais, moi, je me disais, t'es dans un match éliminatoire, c'est ton premier départ comme match éliminatoire. Tu joues contre les Eskimos qui ont quand même un bon front défensif, qui est capable de mettre de la pression, qui était numéro un dans la Ligue. J'espère qu'on va donner un peu d'équilibre à notre jeune carrière. Mais non, il n'y en a même pas eu. Puis ça ne l'a pas énervé, tu sais. Bon sang-froid, très calme. Il a fait les jeux. Le festival des gros jeux, c'est ça la recette des Tiger Cats. C'est une attaque explosive. On en a fait encore, mais
il a très bien distribué le ballon comme il fait. Écoute, depuis qu'il a remplacé Jeremiah Mazzoli, ou à peu près, on a vu une amélioration de sa part. Brandon Banks a connu un bon match. Brandon Addison. Donc, il a des armes à sa disposition. Puis, il a fait comme un meneur de jeu au basketball, simplement de distribuer le ballon. Puis, il l'a fait vraiment à merveille. Alors, du côté des Tiger Cats, il reste neuf joueurs qui avaient participé au match de la Coupe Grey en 2014. Il y a plusieurs joueurs là, pour qui ça va être une troisième participation, notamment, je pense, à Ted Laurent, natif de Montréal. Puis, ils n'ont jamais gagné la Coupe Grey. Ils ont perdu contre Calgary. Naturellement, le retour de Brandon Banks qui avait été annulé. Ils ont perdu contre les Rough Riders en Saskatchewan. Donc, pour eux, là, écoute, ça va peut-être être la dernière chance. Puis, ça fait longtemps que les Tiger Cats n'ont pas gagné la Coupe Grey, 1999.
Oui, puis quand tu penses à ça, c'est clairement, ils vont être favoris. 15 victoires, 3 défaites, la meilleure fiche de la Ligue de cette année. Ils ont joué deux fois contre les Bombers, ils ont gagné les deux fois. Ce qui est quand même particulier, c'est qu'on se souviendra que l'arrivée en scène de Dane Evans, C'est justement que Jeremiah Mazzoli, à moi, je ne pense pas faire erreur, il s'est blessé contre les Bombers.
Oui, oui, contre les Bombers.
C'était
oui,
un match contre les Bombers.
C'était le match de la semaine, le match que tout le monde attendait à ce moment-là. Les Bombers étaient au premier rang dans l'Ouest, si je me souviens bien. Et puis, ben oui, c'est ça, il s'est blessé une blessure sans contact.
Et Dane Evans est arrivé, les Tiger Cats ont réussi à gagner le match. Par la suite, Dane Evans a pris son envol. Puis là, ça fait 6 matchs qu'il est en feu.
Oui, oui.
C'est plus de 350 verges en moyenne par match. En plus de passes de check et d'interception, c'est toujours une bonne recette.
Non,
mais comme
vraiment
tu dis,
impressionnant.
Il est bien équipé. Sauf que, ben encore là, j'ai hâte de voir. Ça dépend de la température à Calgary.
Ouais, ben, il semble que ça va être du temps doux. Là. Écoute, la semaine dernière, il a fait 12 degrés Celsius à Calgary. Il fait plus doux à Calgary ces temps-ci qu'à Montréal.
Et surtout, surtout la surface de jeu, le vent. Surface de jeu et le vent. Clairement, pour moi, les Tiger Cats vont être l'équipe la plus rapide. En tout cas, quand tu penses à Speedy Banks et à Braylon Addison. Et on sait toujours ce qui arrive quand la, quand la surface de jeu est glacée, comme la dernière Coupe Grey, ça rabaisse le niveau vers le bas.
Oui, oui.
Donc
ça
l'équipe la plus athlétique
Toronto,
se fait affecter.
Ottawa,
alors, me dit, imagine, là, si c'est difficile, si c'est glissant, ça va affecter énormément l'attaque des Tiger Cats et ça va aider la défense des Bombers. Parce que moi, tout de suite, là, je sais qu'on parle des Bombers, on n'a pas encore parlé de leur victoire, là, mais moi, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est que tu as l'attaque la plus explosive d'un côté, puis tu as la tertiaire qui accorde le plus grand nombre de jeux explosifs de l'autre côté, celle des Bombers.
Ouais.
Il y a quelque chose
On va voir ce que ça va donner. Ouais, ça augure peut-être mal pour les Bombers. Bon, OK. On va en parler de la finale de l'Ouest, puisqu'on fait allusion aux Blue Bombers de Winnipeg, qui ont gagné la finale de l'Ouest par la marque de 20-13 face aux Rough Riders à Saskatchewan. Ouais. Et en plus de ça, le match avait lieu à Regina. La foule était très bruyante du début à la fin de la rencontre. Puis pour les Rough Riders, bon, est-ce que c'est aussi simple de résumer tout ça aux opportunités ratées près de la zone des buts?
Je pense que oui. Quand tu perds un match par 7 points et que tu es allé 4 fois dans la zone payante, hein, c'est-à-dire à l'intérieur de la ligne de 20 des Bombers, et que tu sors de là avec 2 bottées de précision et 2 revirements sur des troisièmes essais, bien, on va dire de quoi tu as laissé pas mal de points sur le terrain.
Dernier jeu du match, le ballon qui frappe la barre horizontale du poteau au début.
Puis 2 minutes avant ça, c'était le troisième essai à la porte début à la ligne de 1. Faux filet du corps, Fajardo qui se fait arrêter. Elle veut attaquer du côté gauche, se fait arrêter. Un super jeu des Bombers, alors on va dire de quoi. Mais ça reflète, autant les Tiger Cats dans leur victoire contre ce qui est ressorti des Tiger Cats. Tu sais, je parlais que c'était l'attaque la plus explosive. Qu'est-ce qui est ressorti pour moi dans ce match-là? C'est les Tiger Cats qui ont fait un paquet de jeux explosifs. Puis quand tu parles de la défense des Bombers, c'était numéro 2 pour provoquer des revirements. Qu'est-ce qui est ressorti? Bien, c'est tous les revirements qu'ils ont provoqués. Et qui ont gagné le match en défensive à la fin. Là. Donc, on dirait que c'est ce qui a amené ces équipes-là en éliminatoire, ben c'est ce qui est arrivé. Ils ont continué cette recette-là dans les matchs les plus importants.
C'est ce qui leur a permis, justement, d'accéder au match de la Coupe Grey. Et qu'il faut qu'on parle de Zach Collaros, parce que c'est vraiment tout un cheminement qu'il a eu, la carrière des Blue Bombers de Winnipeg. Premièrement, il a commencé la saison en tant que carrière partant des Rough Riders. Elle a subi une commotion cérébrale, c'est quoi, dès la première séquence? Troisième jeu de la saison, frappé par Simone Lawrence, son ancien coéquipier avec les Tiger Cats d'Hamilton. Ensuite de ça, il a été échangé aux Argonauts de Toronto, n'a jamais joué un match pour les Argos, échangé des Argos aux Blue Bombers, se retrouve maintenant à la Coupe Grey face à son ancienne équipe, les Tiger Cats d'Hamilton.
C'est ça qu'on appelle boucler la boucle?
Ben, je crois que oui. Je crois que oui. Puis c'est lui qui a éliminé les Rough Riders, son ancienne équipe avec qui il a commencé la saison. Écoute, c'est vraiment un cheminement incroyable de la part de Zach Collaros. Écoute, moi, je faisais partie de ceux qui disaient, regarde, Zach Collaros, après sa dernière commotion cérébrale, il serait mieux d'accrocher ses crampons parce que, écoute, on a perdu le nombre de commotions cérébrales dont il a été victime. Mais tu as parlé des longs jeux, puis il a été en mesure de compléter de longs passes hier face à la défense des Riders.
Clairement, les Riders s'étaient dit, on ne laissera pas Andrew Harris contrôler le match. Mm-hmm. On ne laissera pas Andrew Harris nous piler dans la face.
Oui.
On va forcer Collaros à compléter des passes. Alors, beaucoup de joueurs dans la boîte défensive, beaucoup de 1 contre 1 à l'état pur sur les lignes de côté. Et Collaros et ses receveurs ont fait le boulot, parce que c'est ça que tu dis, là. La défensive, quand tu fais ça, tu dis à Collaros à tes receveurs, on n'a pas peur de vous autres.
Oui.
Et on croit surtout pas que vous allez être capable de nous attaquer 1 contre 1. Mais ils l'ont fait. Alors, bravo.
Ouais,
c'est
ils
ça.
Ont fait payer.
C'est ça. C'est ça que tu veux faire, parce que clairement, j'ai pas vu les derniers chiffres à la fin du match pour Andrew Harris, mais je me souviens qu'il restait 5 minutes au match. Il avait 9 courses, 1 réception. Il avait touché au ballon seulement 10 fois. C'est un des joueurs par excellence dans la Ligue canadienne. C'est un gars qui doit faire la différence. Alors, clairement, Saskatchewan a décidé que c'est pas lui qui va faire la différence. Mm-hmm. Alors, les receveurs et Collaros, eux, ont été en mesure d'accomplir suffisamment de jeux pour gagner.
Alors, si je déchiffre, qu'est-ce que tu me dis? Comme pas mal tout le monde choisit les Tiger Cats au match de la Coupe Grey. Ils ont été la meilleure équipe du début à la fin du calendrier.
Et encore là, je me garde un petit doigt de réserve parce que la météo, la météo, plus la météo va être mauvaise, plus ça va favoriser les Bombers. C'est ce genre d'équipe-là, je trouve, tu sais. Grosse ligne d'attaque, jeu au sol. Puis tu sais, quand tu regardes leur système offensif, oui, c'est sûr que là, on a attaqué Saskatchewan parce que Saskatchewan nous a défié d'attaquer les zones profondes. Je pense que la tertiaire des Tiger Cats est excellente. Puis tu sais, moi, ce que je reviens, c'est que la côté explosif des Tiger Cats, c'est ça qui me fait peur. Parce que les Bombers, c'est beaucoup de courses, c'est beaucoup de passes. Là. On étire horizontalement l'adversaire, beaucoup de petits curls, beaucoup de petites tracées en boucle, des crochets. T'sais. On y va de façon méthodique. Je ne suis pas sûr qu'on va compléter un paquet de longs jeux là, contre les Tiger Cats.
Ben, en même temps,
que les Tiger Cats, pour finir, Didier, c'est que souviens-toi, c'est quoi la recette des Bombers en défensive? Le front défensif doit absolument protéger la tertiaire.
Ben, tu vois, regarde, dans mes notes, j'ai mis là, pour le match à Cobb Gray, du Willie Jefferson.
Ouais.
On l'a presque pas vu lors des matchs éliminatoires. Il est où, Willie Jefferson?
Exactement.
Puis même en deuxième moitié de saison, il a ralenti comparativement en première moitié de la saison. À chaque match, il faisait des jeux d'impact, soit des sacs du quart, des passes rabattues, même des interceptions, des plaqués pour perdre. Puis là, on le voit pas. Il se doit de connaître un gros match, selon moi, lors de la rencontre de la Coupe Grey. Il peut être une des clés de ce match-là.
Le meilleur exemple qu'on peut utiliser, c'est la remontée spectaculaire des Alouettes à Montréal contre les Bombers. La minute que les Alouettes ont été en mesure d'avoir une meilleure protection, de donner une seconde ou deux de plus à Vernon Adams,
la tertiaire tenait pas le coup. Hein?
Les receveurs des Alouettes ont pris le dessus.
Ouais.
Alors, je me dis, quand tu regardes les receveurs des Tiger Cats, je pense pas que la tertiaire est capable de courir avec ce groupe de receveurs-là. Alors, si jamais il n'y a pas de pression sur Dane Evans, ça risque de
festival. Ça peut être très long.
Alors, c'est pour ça, je me dis, les Tiger Cats sont tellement équipés pour marquer beaucoup de points, avoir des jeux explosifs. Ouais.
La seule chose que je dirais en faveur des Bombers, c'est que c'est dans notre ADN, on a le style de jeu justement afin de contrôler le temps de possession. Ouais. Avec le jeu au sol, avec Andrew Harris, on en parlait, avec Chris Traveller, qui n'a pas connu un gros match, mais habituellement, il est en mesure de donner une étincelle à l'attaque des Bombers avec le jeu au sol, avec le jeu de l'option. Donc, on a une grosse ligne à l'attaque, on va devoir contrôler le temps de possession, surtout si la température, s'il y a une bonne température, puis que ça permet à Brandon Banks, à Addison d'utiliser leur rapidité. On a dans notre ADN la recette afin de garder cette attaque explosive-là sur les lignes de côté.
Ouais.
La question est de savoir si on sera en mesure d'exécuter.
Oui, puis imagine la bataille au niveau des unités spéciales. C'est deux équipes qui excellent sur les unités spéciales. On a des bons botteurs, on a des bons retourneurs.
Mike O'Shea.
Des super entraîneurs d'unités spéciales. On va dire de quoi ça va être particulier, ça va être intéressant. Puis, tu sais, on parlait de ça, mais si tu parlais de la défaite des Tiger Cats contre les Stampeders à Vancouver, là, la Coupe Grey, là, le bloc dans le dos sur le retour.
Ben, jeu clé sur les unités spéciales. Mais
c'était sur les unités spéciales. Fait que c'est peut-être ça qui va faire la différence aussi. Là.
Ah oui, ça, c'est pas possible.
J'ai hâte de voir parce que les Bombers, si c'est un match super serré, ben les Bombers, je pense qu'ils sont plus à l'aise dans ce genre de match-là que les Tiger Cats. Mm. Les Tiger Cats, ils ont seulement perdu 3 matchs. Là. Ils n'ont pas eu beaucoup
d'adversité.
Ouais. Alors, comment ils vont réagir là, au quatrième quart quand ça ne va pas bien et qu'ils perdent par un toucher ou qu'ils perdent peut-être par 10 points? Là, est-ce qu'on reste unis? Est-ce qu'on trouve la solution? Ou est-ce qu'on se désagrège puis c'est terminé puis les Bombers gagnent? Alors, ça, j'ai hâte de voir comment ils vont réagir. Ah,
j'ai hâte de voir ça. Écoute, on a des vétérans, comme je le disais tout à l'heure, du côté des Tiger Cats qui ont perdu des matchs de la Coupe Grey. Alors, peut-être à ce moment-là, justement, ces vétérans-là vont devoir prendre contrôle du pouls de l'équipe, de l'émotion au niveau de la formation. Alors, ça devrait être tout un match. Il s'agit des deux plus longues disettes de la Ligue canadienne en termes de championnat. Les Bombers n'ont pas gagné à Coupe Grey depuis 1990. Passez
deux secondes.
Il fallait
vraiment que tu ailles là, Didier. Hein?
Ben écoute,
parce que tu sais contre qui ils jouaient cette année-là.
Je
ne
pas tourner le fer dans la plaie, mais...
Tu sais contre qui ils jouaient cette année-là.
Fait que je le mentionne.
Tu vois contre les Eskimos d'Edmonton.
Avec un certain Pierre Vercheval.
Moi, j'étais là. Hey, va te dire de quoi ça, là. C'était un des matchs les plus embarrassants en tant qu'équipe. On a perdu 55-11, la Coupe Grey, imagine.
Ben là, tu m'as dit la même chose de votre défaite contre les Lions de la Colombie-Britannique quand vous avez fini 16-2. C'est laquelle là, qui te fait
non,
plus
ben
mal?
Ça, on n'était même pas allé à la Coupe, ça, c'est l'année avant. 16 victoires, 2 défaites, on avait perdu contre les Riders en finale de l'Ouest.
On a eu des
défaites difficiles à avaler, mais tu sais, il n'y a rien qui fonctionnait. On rentre à mi-temps, si ma mémoire est bonne, on rentre à la mi-temps, c'est seulement 11-4. Puis on est mauvais. Alors tu sais, c'est le classique. On dit, on vient de jouer la pire demi de notre histoire. On perd juste par 7 points. Tout l'avenir est devant nous. Première séquence, Tracy Ann, notre carrière, interception, pick six. Première séquence, troisième quart, c'était
l'implosion,
terminé.
L'implosion, l'implosion.
Ah, écoute, les valves venaient d'ouvrir. Le barrage venait de céder.
C'est bon de voir au moins après tout ce temps-là, tu es en mesure d'en rire.
Ouais,
et puis, du côté des Tiger Cats, ben, eux, ils n'ont pas gagné la Coupe Grey depuis 1999. Ils avaient éliminé les Alouettes afin d'accéder au match de la Coupe Grey. Alors, de longues disettes. Il y a une des longues disettes qui va prendre fin.
Non, ça, c'est le fun pour ça. Ça va faire des belles histoires.
Vraiment. Là, mais c'est quand même incroyable.
O'Shea, Stanauer, ont joué ensemble, ont coaché ensemble à Toronto. Ils ont joué ensemble à Toronto. Ouais. Les grosses années de la défense de Toronto, là, Rich Stubler, ben, tu avais O'Shea, secondaire intérieur, Stanauer, maraudeur.
Ouais.
C'est pour ça que cette défensive-là était aussi bonne. T'sais. On savait que ces gars-là allaient devenir entraîneurs. C'était des entraîneurs sur le terrain. Ouais. Alors, c'est pas un hasard que ces gars-là sont rendus là où ils sont.
Ouais, en tout cas. Ben, ça va être un match, bien sûr, qui vous sera présenté dimanche en soirée sur les ondes de RDS avec l'émission d'avant-match, un match de la 107e Coupe Grey. C'est à ne pas manquer. On va maintenant se tourner du côté de la NFL. Comme à l'habitude, c'est un dimanche qui était très, très, très occupé du côté de la NFL. On va commencer avec le duel qui mettait aux prises les Cowboys de Dallas aux Lions de Détroit, j'allais dire les Lions de la Colombie-Britannique, là, vu qu'on vient de parler de la Ligue canadienne. Donc, ça a été une victoire de Dallas par la marque de 35 à 27, 444 verges par la passe, trois passes de toucher pour Dak Prescott. Qu'est-ce que tu as retenu de cette rencontre?
La performance de Dak Prescott, puis aussi la contre-performance du jeu au sol des Cowboys. Alors, tu sais, quand je regarde Elliott qui a échappé un ballon, 16 courses, 45 verges, 2,8 verges par course. La semaine passée, contre les Vikings, c'était pas mieux. C'était 47 verges. C'était 2,4 verges par course. Là, il y a une mauvaise tendance. Là. Une chance que Prescott est en mesure de compenser. Une chance que c'était les Lions.
Mm-hmm.
Mais il m'a dit de quoi? Il va falloir faire attention. Il va falloir trouver une façon de donner plus d'être plus créatif avec notre jeu au sol, de permettre à Ezekiel Elliott de faire plus la différence. Parce que, bon, Prescott, c'est bravo. Là, puis tant mieux pour lui parce que ça peut juste ajouter... à sa négociation de contrat.
Oui.
Mais il y a ça qui est ressorti, puis d'autre part, la défense des Cowboys qui me déçoit un petit peu. On n'a pas provoqué de revirement.
Pour tout le talent qu'on a, c'est ça. Depuis le début de la saison, c'est très décevant.
On n'a pas provoqué de revirement.
Parce qu'on parle de 27 points accordés au Lyon, qui était mené par Jeff Driscoll. Rien contre Driscoll, il a bien joué. Il a démontré bonne chose. Il est mobile. On a sorti des boules à mythe, l'ancien d'Alabama.
Mais ça,
pour dire Driscoll et Scarborough, t'accordes 27 points.
Ben, c'est ça. Alors, tu sais, les Lions sont allés trois fois dans la zone payante, trois touchés, pas de revirement provoqué par Dallas. Alors, on gagne ça 35-27, mais...
Ça laisse sur l'appétit la défense.
Ben, ils ont gagné, c'est ça qui est important. Puis en plus, c'est intéressant pour eux, les Eagles ont perdu contre les Pats.
C'est ça, on crée de la séparation avec Philadelphie. Mais du côté positif des Cowboys, on a mentionné Dak Prescott, mais les receveurs de passe, parce que Amari Cooper n'a presque rien fait, mais toutefois, tu as Michael Gallup et Randall Cobb qui ont amassé plus de 100 verges par voie de réception. Pour Randall Cobb, c'est la deuxième semaine consécutive. Donc, on a beaucoup d'armes. Là. On a Blake Jarwin, l'ailier rapproché, qui connaît une bonne séquence depuis environ trois semaines, un mois. Alors, oui, le jeu au sol n'a pas fonctionné, mais au moins par la passe, on a été très productif. Et puis même Zeke a marqué un touché bon par la passe. La même chose également avec Pollard, le demi à l'attaque réserviste. Alors que du côté des Lions, Matthew Stafford, sa saison pourrait terminer en raison de sa blessure au dos. C'est ce que Ian Rappaport de NFL Network a rapporté. Alors, on verra si ça sera le cas, mais peu importe. Bon, c'est une autre saison perdue à Détroit.
Trois victoires, six défaites, un match nul.
C'est un peut-être
compétitif
saison,
en début de saison.
Depuis le match contre Green Bay, là, souviens-toi, le match qu'on aurait dû gagner, on avait gaspillé des présences en territoire près de la zone début.
Puis ça, là, le débat des arbitres, Trey Flowers avec les deux pénalités fantômes.
C'est pas la faute des arbitres qu'on ne gagne plus depuis là, mais on n'a pas été la même équipe depuis. Maintenant, les Colts d'Indianapolis ont vaincu les Jaguars de Jacksonville par la marque de 33 à 13. Bon, au cours de cette rencontre, on soulignait le retour au jeu de Nick Foles du côté des Jaguars et le retour au jeu de Jacoby Brissett pour les Colts d'Indianapolis. Et Brissett, il jouait pratiquement sur une jambe, mais il semble que ça ne l'a pas dérangé, ennuyé par une blessure à un genou. Maintenant, il était en mesure de courir, d'acheter du temps. Ça a vraiment été une bonne performance de sa part. Mais moi, ce que j'ai retenu de cette rencontre-là, ça a été la ligne à attaque des Colts, qui a complètement dominé. Plus de 200 verges au sol. Marlon Mack, 14 courses, 109 verges. Jonathan Williams, 13 courses, 107 verges. Et puis Marlon Mack, là, il a juste joué la première demi. Il s'est blessé à une main.
Il est opéré.
Bon, il pourrait rater le reste de la saison, mais en tout cas, ça reste à confirmer. On n'est pas certain. mais il avait déjà 109 verges en première demi. Il aurait gagné plus de 200 verges. Au total, ça a été 264 verges au sol pour les Colts. Ouais.
Ben, c'est ce que je retiens, moi aussi, là, c'est qui est en mesure de courir, qui est en mesure d'arrêter la course. Je comprends qu'on avait le retour de Nick Foles, mais moi, dire de quoi, on n'a absolument rien donné aux Jaguars quand ils ont tenté de courir, seulement 9 courses, 29 verges.
Ben oui, 8 courses, 23 verges de notre Fournette.
Oui, et puis tu as les courses, ben 36 courses, 264 verges quand tu as dit. Fait que pour moi, ça s'est joué là dans les tranchées, l'élément physique. C'est arrêter de jouer au sol, puis courir, ça a fait toute la différence. Ma seule déception, c'est que Quentin Nelson n'est pas rentré dans la zone de but. Là, pour,
ouais, ben
pour
oui, ben oui. Il est en position de centre arrière, on est allé d'un bon vieux dive, et puis ça n'a ouais. pas marché. Il doit se pencher un peu plus.
Ben
là,
oui, c'est ça.
Il est resté trop droit. Il ouais. avait même préparé sa célébration, puis il est après.
Mais ben imagine, c'est quand même audacieux, parce que c'est probablement ton meilleur joueur de ligne à l'attaque mm-hmm. pour le jeu au sol. Mais ben là, tu l'enlèves de la ligne à l'attaque pour le mettre centre arrière. Alors, tu sais... Ben, j'aime ça quand ça.
C'est sûr, l'ancien joueur de ligne d'attaque, t'étais un peu jaloux. Là.
Ben t'aurais oui, c'est sûr. T'aurais
aimé ça être à sa place.
Ah, oui. Ben, c'est intéressant. Oui. Écoute, les Colts, c'est une recette qui fonctionne. Quand ils sont capables de contrôler le ballon comme ça, de courir, de ne pas trop en mettre sur les épaules de Jacoby Brissett, c'est ce qu'il avait fait aux Chiefs là, il y a quelques semaines. C'est intéressant. C'est une recette qui était prouvée, qui peut te faire gagner des matchs n'importe où.
Oui, non, c'est ça. Mais quand tu as une bonne ligne à l'attaque comme ça, c'est, peu importe que tu sois à domicile ou tu joues sur les terrains adverses, tu peux mettre cette ligne à l'attaque-là dans tes valises, puis tu sais qu'elle va se présenter. C'est quelque chose, peu importe que tu sois à domicile ou sur la route, qui fonctionne. J'ai été déçu de la performance de la défense des Jaguars. Puis on continue, en tout cas, je dis « on ». Moi, personnellement, j'ai la mauvaise habitude de continuer de croire que la défense de Jacksonville, elle est bonne, comme elle avait été il y a 2 ans, mais clairement, elle n'est plus aussi dominante, malgré qu'il reste d'excellents joueurs au sein de cette unité. Mais lorsque tu accordes 264 verges au sol...
Oui, c'est ça, tu as toutes sortes de raisons. Tu n'es pas assez physique, tu n'as pas été l'intégrité de son système défensif n'a pas été maintenue par tes joueurs. Mm-hmm. Tu ne prends pas des bonnes affectations, tu n'es pas assez physique, tu es trop haut, tu as toutes sortes de façons. Hein. Il y a plusieurs chemins qui mènent à une contre-performance quand vient le temps de tenter d'arrêter le jeu au sol. Puis il faut que tu sois prêt à payer le prix, c'est la première chose que tu dois faire quand tu vas arrêter le jeu au sol. C'est une question d'attitude aussi. Rentrer dans les bons corridors, avoir les bons leviers. Si tu prends le bloc avec la mauvaise épaule, mais là, tu sais, mettons que ton aide...
Juste ça crée une brèche, oui.
Alors, tu sais, c'est pas aussi simple qu'on le pense, finalement. Tu sais, le jeu au sol, on se dit, tu sais, les gars rentrent en ligne droite, puis let's go.
Non, c'est plus que ça.
Il y a tout un système de contenir le jeu, de faire déborder le jeu, tu sais, d'où vient ton aide, tout ça. Vraiment, tout le monde doit faire son boulot. Ouais. Ça, c'est vrai que c'est décevant, puis c'est démoralisant.
Non, exactement.
Quand
exactement.
Tu peux pas quitter le terrain, quand tu te fais piler sur le corps, quand tu sais que la course arrive, tu n'es pas capable de l'arrêter.
Oui, puis c'est exactement ça qui est arrivé. Alors, pour Nick Foles, bon, ça a été une performance décevante, comme on a dit. On va voir ce que ça va donner pour le restant de la saison, mais clairement, les Jaguars de Jacksonville ne devraient pas participer aux éliminatoires. Les Bills de Buffalo, eux, ils affrontaient les Dolphins. La séquence victorieuse des Dolphins, Pierre, est terminée. Eux qui avaient gagné 2 matchs, et ça a été une victoire de Buffalo par la marque de 37-20.
Ben oui. Hey, Buffalo, genre, je voyais ça, Didier, pour la première fois depuis 1999, une fiche de 7-3. Mm. Puis Buffalo, regarde, c'est une petite équipe qui passe en dessous du radar. Elle fait ce qu'elle doit faire. Je sais que les adversaires n'ont pas des fiches. Les adversaires des Bills, là, les 10 matchs, là, c'est, si tu combines les fiches, c'est 12 victoires, 44 défaites.
Alors, regarde, c'est ce que j'ai écrit dans mes notes. Buffalo a prouvé que les Bills ont prouvé qu'ils sont en mesure de battre les mauvaises équipes, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire contre les bonnes équipes? Point d'interrogation. C'est ce que j'y prends en
note. Oui, c'est ça. Mais en même temps, regarde, tu te présentes, tu bats l'équipe qui se présente devant toi. Puis, tu sais, Josh Allen, 3 passes de toucher, un toucher au sol. Protège mieux le ballon, pas d'interception, c'est 163 dernières passes tentées. Puis le front défensif des Bills a complètement suffoqué l'attaque des Dolphins.
Les Dolphins,
7 sacs. On a alloué 23 verges au sol. Alors, on va dire de quoi?
Surtout qu'on n'a pas été solide contre la course dernièrement du côté des Bills. Ça, c'était une bonne chose. Bon, c'était contre les Dolphins, mais les Dolphins sont... C'est plus les Dolphins du mois de septembre. Okay? Au moins, ils sont améliorés. Là. Moi, ce qui se faisait éclater par 40 points. C'est pas une grande équipe, mais on joue mieux quand même. Alors, John Brown, toute une performance. Là, tu parlais de Josh Allen, 3 passes de toucher. Ben, il y en a 2 qui ont été attrapés par John Brown. 9 réceptions, 137 verges. On n'avait personne du côté de la tertiaire des Dolphins. On se rend compte qu'il y a un manque de talent en criant du côté de Miami. Personne ne fait courir John Brown partout l'après-midi. Maintenant, dans ce qui a probablement été le match de la journée, ça se passait au Minnesota. Les Vikings ont gagné 27-23 contre les Broncos. Les Broncos menaient 20-0 à la mi-temps. Ouais. Puis ils sont arrivés comme une équipe qui avait absolument rien à perdre, ouais, avec Brian Allen au poste de quart. On tentait de convertir les quatrièmes essais. On est allé, ouais, de jeux truqués. Cortland Sutton a connu tout un match. Plus de 100 verges par voie de, ouais, réception. Il a même complété une passe sur un jeu truqué. T'aurais dû voir le visage. Je sais pas si t'as vu le visage des partisans des Vikings.
J'avais demandé qu'est-ce qui se passe. Le visage de Mike Zimmer.
Ouais, ouais. Ben, c'est durant le match, on montrait des images, ouais, des partisans des estrades. Tu te demandais, ouais, qu'est-ce qui se passe.
Ben, c'est drôle parce que quand j'ai vu le pointage après la première demi, j'ai tout de suite pensé à l'an passé. Souviens-toi quand les Bills de Buffalo avaient été battre les Vikings à Minnesota,
ah, oui, oui,
l'an,
oui,
dernier.
C'est en début de saison.
Une contre-performance, oui, qui arrivait de nulle part. C'était, oui, voyons donc, c'est quoi cette affaire-là?
Oui.
J'ai un peu eu le même sentiment. Sauf que là, Captain Kirk, là, Kirk Cousins, on le paye grassement, là, 84 millions garantis, mais là, on m'a dit de quoi il a gagné ses dollars.
Oui.
Parce que quand il y pense, pas de jeu au sol, 18 courses pour 37 verges seulement, c'est 2 verges par course. Football de rattrapage.
Bon, on a complètement neutralisé, ouais, 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 Dalvin Cook.
Football de rattrapage, 5 sacs du corps, 5 fois il a été frappé, donc il n'y avait pas les meilleures conditions, là. Attaque unidimensionnelle, football de rattrapage, il a été frappé, on l'a rejoint, on l'a affecté. Malgré tout ça, les 4 séquences de la deuxième demi, 4 touchés d'affilée, des grosses passes, des gros jeux. Alors pourquoi là, il m'a démontré quelque chose, là. Ça, c'est intéressant. Si t'es partisan des Vikings, là, on va dire de quoi là, tu y crois un peu plus. Parce que tout passait par le jeu au sol. Puis on disait, est-ce que Cousin peut nous gagner un match à lui seul?
Non, il l'a fait, t'sais, hier. Ouais, il l'a fait. Il l'a fait. Non, non, absolument. Puis en plus, sans Adam Thielen, ouais, Stephen Diggs a connu un bon match. Mais quand même, on sait que les deux forment un des meilleurs duos de receveurs de passe de la NFL. Écoute ça, Pierre, c'est la première fois en 5 ans qu'une équipe revient de l'arrière par 20 points en deuxième demi pour l'emporter. Les équipes qui tiraient de l'arrière à la mi-temps par 20 points ou plus lors des 5 dernières années, c'est-tu sais quoi leur fiche? Aucune victoire et 99 défaites.
Oh, okay.
Donc, ça a été un retour historique là, de la part des Vikings du Minnesota. Ça fait mal pour les Broncos. J'y regardais. À un certain moment, on se disait, bon, est-ce que Vic Fangio, ça va juste être une saison, puis il va se faire congédier. Mais les Broncos sont venus, puis ils essaient vraiment de gagner le match. Brian Allen est en mesure de courir. Il a fait des jeux, puis tout ça, ça s'est décidé sur le dernier jeu du match. Une passe en zone début, une passe incomplète.
Oui, puis ça, c'est un gros problème. Parce qu'il y a une stat que je voyais, là, justement, en parlant des Broncos en attaque, là. Ça fait 6 matchs consécutifs qu'on ne marque pas un touché au quatrième quart. Donc, on n'est pas capable de revenir dans le match, ou on n'est pas capable de conserver notre avance. On n'est pas assez proche, mais...
Pour moi, le point tournant de la rencontre, ça a été à la fin de la première demi. Avant la mi-temps, Sandejo qui a réussi une interception alors que les Broncos allaient marquer un autre touché. Du moins, ils tentaient de marquer un autre touché. Ils auraient pris l'avance 27-0. Là, ils ont perdu 27-23. Sandejo réussit l'interception. Lui qui a été libéré par les Eagles de Philadelphie, on l'a ramené au Minnesota. Alors, si on avait pu terminer cette séquence-là avec un touché, peut-être qu'on aurait causé une des plus grosses surprises de cette saison dans la NFL. Maintenant, les Saints à Nouvelle-Orléans, eux, ils tentaient d'éviter de perdre un deuxième match de suite, mais ils ont gagné 34-17 contre les Bucks, leurs rivaux de section. Michael Thomas, Pierre, il est rendu à 94 réceptions. Il est devenu le premier joueur dans l'histoire de la NFL à avoir au moins 90 réceptions lors des 10 premiers matchs de son équipe. S'il maintient la cadence, il va battre le record pour le plus grand nombre de réceptions en une saison qui appartient à Marvin Harrison. Ouais. Écoute, dès son premier match dans la NFL, là, il nous a démontré qu'il est tout un receveur de passe, puis ça se poursuit.
Oui, puis je vais dire bravo à Michael Thomas, bravo à Sean Payton de trouver des façons de le libérer puis de s'assurer qu'on peut encore l'utiliser. Parce qu'à chaque on s'entend qu'à chaque plan de match défensif, quand tu affrontes les Saints, j'imagine qu'à quelque part, tu dis il faut limiter les gains de Michael Thomas.
Ouais, numéro 13, ouais.
T'sais, malgré tout ça, il produit match après match. Alors bravo à Thomas, bravo à Sean Payton de trouver des façons de le libérer, des formations, des mouvements.
On parlait beaucoup de Sean McVay, comme quoi il est un génie, tout ça, puis on va parler des Rams un peu plus tard. Mais le génie en attaque de la NFL, c'est pas mal Sean Payton. Ça fait combien d'années là, en plus? Là?
Qu'est-ce qu'il a fait avec Teddy Bridgewater?
Oui.
Quand Drew Brees était blessé.
Oui.
T'sais, l'attaque a produit. Là.
Ah, il s'est ajusté à Bridgewater.
Alors, c'était bien. Puis,
sans Alvin Kamara également à un certain moment.
Parce que moi, c'est ça. Quand j'ai vu les Saints qui ont gagné hier la recette, Breeze, 3 passes de toucher, pas d'interception, pas de sac. On sait qu'il dégaine rapidement. Pas de jeu négatif. Kamara qui revient, touche au ballon 23 fois, 122 verges au total. Thomas, 8 réceptions. Tu sais, les gros canons.
Oui.
Hein, le Big Three. Tous nos gros canons ont fonctionné. C'est ça la recette.
Oui, Jared Cook a marqué un touché, qui est une arme de plus.
Évidemment, on s'est gavé. Ouais, c'était ben là, Noël, Didier. Ben là, bon, c'était déjà Noël pour les Saints.
On va parler des Buccaneers. Parce que là, tout le monde se gare contre les
cadeaux,
Buccaneers.
Les cadeaux de Jamie's.
Non, non, mais c'est la même histoire toutes les semaines, Pierre. C'est la même histoire. D'ailleurs, bon, Anthony Auclair a raté la rencontre. Sa saison est terminée. Il a été opéré à un orteil. Il était supposé participer au podcast. Mais naturellement, bon, après avoir été opéré, il n'était pas disponible. On espère avoir Anthony avec nous aujourd'hui. Puis on lui souhaite une bonne convalescence, bien sûr. Mais les Buccaneers, écoute, là, c'est ça que j'ai écrit. L'histoire se répète. Jameis, victime de 4 interceptions. Ouais. Par contre, les 4 interceptions n'étaient pas de sa faute. O.J. Howard, il avait le ballon dans les mains, il l'échappe. Finalement, il s'est attrappé par un joueur des Saints de l'Orléans.
Ça, c'en a un qui déçoit, ça. Qui ne remplit pas son contrat, son mandat.
Vraiment pas, vraiment pas. Moi, je lui offrirais pas un deuxième contrat. Là. C'est toujours son... Même j'aurais changé à la date limite des transactions. Souviens-toi, il y avait des rumeurs comme quoi il y avait des équipes intéressées. Oui, la production d'O.J. Howard. Pourtant, quand tu le vois physiquement, écoute, là, il a le physique prototype qu'on recherche à la position, son temps aux 40 verges, tout ça, mais il ne produit pas. Même Cameron Brate, depuis qu'Howard est là, Cameron Brate est beaucoup plus productif. Donc, il échappe une passe qui est interceptée. Une autre interception de Jameis, bon, c'est un manque de communication avec son receveur. Là, c'est difficile de dire à qui est la faute, mais... Ce que j'essaie de dire, c'est pas juste Jameis. Je ne veux pas défendre Jameis Winston parce que depuis qu'il est dans la NFL, c'est carrière qui a été victime du plus grand nombre de revirements.
Et d'ailleurs, cette année, il est encore numéro un. Il est rendu à 22.
Oui, 22. Bon, ça, il y en avait 18 avant le match. Ouais. Bon, 22 interceptions, imagine-toi.
Ben, je pense qu'il y a peut-être des échappés là-dedans. Là, mais au total, des revirements, au total, il était numéro un.
Bon, puis écoute, la tendance se maintient de son côté. On a engagé. Qu'est-ce que tu penses de cette situation-là? Parce qu'on a engagé Bruce Arians afin justement de réparer Jameis Winston. Arians a dit oui, je vais être en mesure de le faire. On lui a donné un gros salaire. Puis les Bucks sont vraiment pas améliorés. Là.
Non, puis.
On perd tout le temps de la même façon. C'est ça, moi, que je trouve alarmant.
Puis quand j'ai vu les chiffres, là, j'ai vu que Jameis Winston avait tenté 51 passes. Moi, d'après moi, c'est pas la recette gagnante là, pour les Bucks. Puis le pire, c'est quand tu te mets à regarder le pointage. Tôt au troisième quart, c'est seulement 20 à 10. On perd juste par 10 points.
Mais
là.
Ça, je te dis, quand je te dis que l'histoire se répète...
51 passes, seulement 8 courses. Mais là-dedans, il y en a seulement 6 de la part des porteurs de ballon. Ouais. Sélection de jeu, là. Tu sais, je veux dire, il n'y avait rien qui...
Mais c'est ça, toutes les semaines, ils sont dans les matchs, les Buccaneers. Ouais. Puis c'est ça qu'Anthony nous disait. Principalement, il nous disait on se fait du mal à nous-mêmes continuellement. Il dit si on peut arrêter de faire ça, parce qu'on est dans les matchs au quatrième quart généralement, si on peut arrêter de faire ça, on va faire du succès. Mais semaine après semaine, on trouve le moyen de gaffer, de faire cadeau du ballon aux équipes adverses du côté des Bucs. C'est vraiment décevant. Moi, Jameis Winston, j'avais des hautes attentes à son endroit lorsqu'il a été repêché.
Donc, on s'aperçoit que la QV 2015, là, Jameis Winston, Marcus Mariota.
Ouais. Non, c'est... Non, je pense pas. Mais à Tampa, apparemment, qu'on aurait déjà pris la décision de ramener Jameis l'année prochaine, malgré tout. C'est ce que j'ai lu, je me souviens pas où, c'est ce que j'ai lu. En tout cas, je trouve ça tout à fait incroyable. Pendant que je regarde les statistiques de Jameis, tu vois, c'est 18 interceptions. Il est rendu à 18 interceptions. 19 passes de toucher, 18 interceptions. Pas un bon ratio, hein. Vraiment pas un bon ratio. Ah, vraiment incroyable. Et c'est 3 échappés perdus. Donc, ça lui fait 21 revirements.
2 sacs, s'est fait frapper 12 fois. Tu sais, c'est l'ensemble de l'œuvre. Hein?
Ouais. Ça, dire... ouais. Mais c'est ça qui est alarmant. Il n'y a pas juste un problème. Tu ne peux pas juste pointer à une position, à un joueur, à un problème. Ouais. C'est vraiment global. Bon, assez parlé des Buccaneers. On va se tourner, on va aller en vitesse également pour la prochaine rencontre, puisque les Jets ont défait les Redskins 34-17. Écoute, bon, tant mieux pour les Jets, tant mieux pour Sam Darnold. Il a complété 4 passes de toucher. Ouais. Mais à Washington, il n'y avait pas un chat dans le stade. Je ne sais pas si tu as remarqué, il n'y avait personne dans les estrades. Écoute, ça doit être les pires moments de l'histoire des Redskins. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as retenu de cette rencontre?
Bien, que le changement de coach n'a pas fait grand-chose.
Non, hein?
Le changement de corps n'a pas fait grand-chose. Ben, clairement, il manque de talent dans cette équipe-là. Parce que Callahan, une victoire, 4 défaites depuis qu'il a pris la relève à Gruden. Du pauvre Haskins, il embarque là, 6 sacs du corps. Il s'est fait frapper 10 fois, lance une interception, l'a malmené. Puis du côté de Darnold, c'est intéressant. Au moins, ses 4 passes de toucher, ça lui a permis d'avoir plus de passes de toucher maintenant que d'interceptions. Il est rendu à 11-10 au niveau du ratio. Bien, c'est sûr que bon, c'est un match auquel je dois t'avouer, Didier, je n'ai pas porté grande attention.
Ce match-là.
Mais les Jets, gardent la grosse nouvelle, back-to-back win, hein? Les Giants, les Redskins.
Regarde, on peut avoir une autre équipe de second ordre. Alors, on peut ajouter à nos statistiques. Puis, on a annoncé qu'Adam Gase allait être de retour. C'est ce que le propriétaire a dit. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça, mais peu importe. On a assez parlé de cette rencontre. Retournez maintenant aux Falcons, qui ont donné une volée aux Panthers. Le match avait lieu en Caroline, en plus. Victoire des Falcons, 29-3. Tu parlais des Jets, deuxième victoire de suite. Ben, c'est un deuxième game consécutif pour les Falcons également. Qu'est-ce que tu as retenu de ça?
Ben, la défense des Falcons.
Ouais, qu'est-ce qui se passe?
Coup, là? Est-ce qu'on veut sauver la job à Dan Quinn?
Moi, j'ai l'impression que oui.
Pas dire de quoi? On a alloué 9 points aux Saints la semaine passée. Maintenant, c'est 3 points.
Deux matchs de suite sans accorder de toucher.
Exactement.
Une défense qui était une vraie passoire en première moitié de saison.
Ça, c'est vraiment surprenant parce que Caroline et les Saints, c'est quand même des bons clubs. Des clubs qui sont capables de marquer des points. Moi, j'ai trouvé les trois facettes ont contribué. On savait que Matt Ryan avait une fiche gagnante. Moi, c'est 7 victoires, une défaite contre la Caroline. Donc, je me doutais que l'attaque allait faire sa job. Bon, on se posait la question de la défensive. Elle l'a fait. On a même marqué un toucher sur les unités spéciales. Alors vraiment, là, et c'est à se demander, ben là, de l'autre bord, là, du côté de la Caroline, est-ce que la magie, Allen, est partie?
Allen, oui, c'est ce que j'allais te parler.
Parce qu'ils ont perdu 3 de leurs 4 derniers matchs. Mm-hmm. Combien d'interceptions? 4 interceptions hier, 5 sacs. Alors,
Puis souviens-toi, je ne sais pas si tu avais entendu les rumeurs la semaine dernière, on disait comme quoi que les Panthers pourraient échanger Cam Newton durant la saison morte aux Bears à Chicago et que Cam était ouvert à l'idée d'être échangé aux Bears. C'est une équipe qui a besoin d'une carrière, ce sont les Panthers à Caroline. Ouais. Pourquoi les changer? Là, on n'a pas de carrière.
Ouais,
Carl Allen, écoute, je crois que c'est un bon carrière réserviste, mais là, de lui donner les clés de la concession, puis d'envoyer Cam à Chicago, imagine-toi si Cam relance sa carrière. Non, on a besoin d'une carrière. Gardez Cam Newton, surtout, il va juste empocher quoi, 19 millions de dollars l'année prochaine. Alors, on peut espérer qu'il va être en forme, mais regardez, là, on peut oublier ça d'échanger Cam. Là.
La seule affaire qu'on retient là, du côté de la Caroline, c'est que la valeur sûre, c'est Christian McCaffrey. Lui, il m'a dit de quoi? Il me surprend. Je ne pensais pas qu'il allait produire match après match.
Mais je
ne pensais pas qu'il allait rester en
santé. Oui, bien, c'est ça. Là.
Parce que, tu sais, il touche au ballon régulièrement. Encore une fois, 25 fois hier, 191 verges.
Écoute, on est rendu à la mi-novembre. On a passé la mi-novembre même. J'ai hâte de voir s'il va lui rester du gaz, de l'essence dans le réservoir.
Parce qu'on presse le citron, là. C'est clairement le gars qui est notre meilleur joueur, fait qu'on l'utilise au max.
Mais c'est pas un joueur qui est imposant physiquement en plus.
Fait que c'est le genre de saison, qu'est-ce que ça va faire l'année suivante?
Exact.
Des fois, tu vois ça, hein?
Oh,
tu sais, les fameux porteurs de ballon qui ont gagné 2000 verges dans une année, mais l'année suivante, comme par hasard, c'était plus les mêmes porteurs de ballon.
Non, exact. Oui,
ça les a surtaxés.
Les chiffres sont à l'appui de ça. Ils ont pas été les mêmes généralement après ces saisons-là. Puis je me souviens, il y avait un joueur, il n'avait pas gagné 2000 verges, mais de Marco Murray. Souviens-toi, avec les Cowboys, c'est sa dernière année de contrat, puis on lui a remis le ballon, on en a profité, on a pressé le citron au maximum. Ensuite de ça, on l'a échangé, puis il n'avait plus vraiment été le même joueur. Ouais.
Peut-être qu'il aimait ça qu'on échange la ligne à l'attaque des Cowboys avec lui.
Il avait ça aussi, elle n'a pas suivi à Philadelphie, puis il y avait le système de Chip Kelly, mais bon, ça c'est une autre histoire, mais ça va être à surveiller. McCaffrey, est-ce qu'il sera en mesure de tenir le rythme d'ici à la fin de la saison? Maintenant, dans le match que tout le monde attendait, tout le monde avait hâte de voir ce duel entre les Ravens de Baltimore et les Texans de Houston. Ouais. Finalement, le match a été terminé très rapidement. Baltimore a gagné 41-7. Encore une fois, Lamar Jackson. 4 passes de toucher, en plus de 86 verges au sol.
Et après son toucher spectaculaire de 47 verges la semaine passée.
Contre les Bengals,
il a fait quoi, une course de 39 verges? Combien de plaqués il a brisé? Je pense qu'il a compté 6.
Oui.
C'est spectaculaire. Puis là, en plus, il protège le ballon. Fait que là, il produit par la passe. Il produit avec le jeu au sol. Il protège le ballon. Il distribue le ballon à 9 receveurs différents.
T'sais, écoute, si Ravens joue, tu dois regarder le match. C'est comme... Il n'y a pas eu beaucoup de joueurs là, qui étaient comme ça. Il fallait regarder absolument. Je me souviens de Barry Sanders dans le temps. Les Lions, s'ils étaient à la télé, il fallait que je regarde le match pour regarder jouer Barry. Michael Vick. Au début de sa carrière, c'est comme, OK, il faut regarder le match. Michael Vick et Falcons jouent. C'est rendu comme ça avec Lamar Jackson parce qu'il est tellement spectaculaire à chaque semaine. C'est incroyable.
Ah, puis on l'utilise bien. Greg Roman, là, qui a un super système de jeu. Puis en plus, c'est tannant parce que toi, défensivement, comment tu te prépares à affronter les Ravens?
Oui, parce que les Texans ont une excellente défense contre la course en passant. Là.
Fait que toi, tu n'as pas un gars dans ton... Qui dans ton alignement... Tu peux aller voir et te dire, OK, toi, Didier, tu vas jouer le rôle de Lamar Jackson cette semaine pour nous préparer. Tu n'as pas dans ton équipe.
Non.
Combien d'alliés rapprochés tu as dans ton équipe pour recréer ce que les Ravens font avec leurs alliés rapprochés?
Ouais.
Combien de fois une unité défensive affronte un système comme celui des Ravens dans une année? Pas souvent. Fait que tout ça, ça veut dire que tu as 3 entraînements pour te préparer. Et là, tu ajoutes l'élément physique. l'élément rapidité, l'élément créativité. Il m'a dit de quoi, là, c'est une méchante commande.
Non, ça en fait beaucoup, ça en fait beaucoup de choses.
Alors,
Mark Ingram a marqué 2 touchés. Goss the Boss a marqué un long touché. Il a marqué plus de 100 verges au sol. Ça, c'est sans parler, bien sûr, de Lamar. Puis, pauvre, je regardais Whitney Merciless. À un moment donné, on est allé avec le jeu de l'option. Puis tout le monde avait sa responsabilité. Tout le monde était placé au bon endroit. Puis là, tu as Merciless qui a le cas arrière, un contre un. Puis là, qu'est-ce que tu penses qui est arrivé? Il s'est fait briser les chevilles par Lamar Jackson. Donc, même quand tu exécutes bien en défense, tu ne peux pas gagner contre Lamar. Parce que si tu as un joueur qui se retrouve à un contre un contre lui, c'est Lamar le meilleur athlète. Puis il est impossible à plaquer à champ ouvert.
Puis ce qui est intéressant là-dessus, c'est que parce qu'il y a bien des gens qui me posent la question, « Ouais, mais Lamar Jackson, Pierre, il va se blesser, là, courir de même. Attention, sa carrière peut être courte. » Bon, c'est vrai, peut-être. Mm-hmm. Ça prend juste un plaqué, ça prend juste un jeu des fois, puis une carrière peut être terminée. Mais la bonne nouvelle pour les Ravens et Lamar Jackson, c'est que souvent, pour t'assurer défensivement d'avoir assez de rapidité sur le terrain pour contenir le jeu, tu vas avoir de plus petits joueurs sur le terrain qui vont être plus rapides.
Ouais,
donc,
là,
qui dit plus petits joueurs, ben, dit plaqué moins physique.
Oui, tu es plus susceptible au jeu au sol.
Oui, puis peut-être que c'est des plaqués qui vont faire moins mal si Lamar Jackson se fait plaquer. Là, c'est rendu que tu fais des jeux d'options contre des nickel corners ou contre des maraudeurs au lieu de faire des jeux d'options contre des secondaires, des alliés défensifs.
Ouais.
Fait que tu sais, il y a cette option-là aussi. Il y a comme cette vision-là des choses.
Personnel plus léger sur le terrain à ce moment-là.
Oui, parce que tu n'as pas le choix. Qui dans ton front défensif est assez rapide pour contenir Lamar Jackson?
Non, il n'y a personne.
Il faut que tu mettes de la vitesse, mais c'est rare, les gars qui sont gros et super vite.
Ouais, assez rapide pour courir avec lui.
Donc, à quelque part, je pense que les coups sont moins solides sur Lamar Jackson. On est juste content de le plaquer par les lacets.
Oui,
c'est ça. S'accrocher à quelque chose.
Mais écoute, je veux te parler également de la défense. Parce que, bon, c'est facile là, de parler de Lamar avec raison et de l'attaque des Ravens de Baltimore. Mais la défense également, bon, c'est sûr, elle est aidée par le jeu au sol de Baltimore. Ça fait en sorte qu'elle passe pas beaucoup de temps sur le terrain. Mais elle semble être améliorée comparativement à ce qu'on voyait en première moitié de saison. Puis la venue de Marcus Peters aide également parce que là, on a un des meilleurs duos de demi-coin de la NFL. Là. Marcus Peters d'un côté, Jimmy Smith de l'autre. Donc, on est aidé par le temps de possession. Présentement, pour moi, les Ravens sont la meilleure équipe de la NFL. Ouais. On s'en parle au mois de janvier. Peut-être que c'est une équipe, comme on dit, qui pique trop tôt là, en beau québécois. Mais pour l'instant, pour moi, c'est la meilleure équipe.
Oui, donc c'est, je pense pas que personne ne veut les affronter. Puis quand tu parlais des bons demi-de-coin, quand tu peux avoir deux demi-de-coin solides en situation homme à homme, ça te permet d'ouvrir le cahier de jeu défensivement.
Ouais.
Ça te permet d'avoir du monde dans la boîte défensive. Si tu dis, nous, on va arrêter le jeu au sol, puis on va faire du 1 contre 1 à l'état pur, on n'a pas de stress avec ça. Alors, ça te permet d'amener beaucoup de créativité. Puis c'est ça que ça donne, là, les demi-défensifs. Alors, c'est pour ça que tout d'un coup, on est solide contre le jeu au sol. Interception, échappé provoqué sur Watson. 6 sacs du corps, on l'a frappé 10 fois. Fait que ça te permet de te concentrer dans tranché puis dans le front défensif parce que tu sais que tu n'as pas les gars en arrière, là, ils n'ont pas besoin de trop d'aide. Là, alors, ça te permet de faire toutes sortes de stratégies, d'être beaucoup plus combatif, beaucoup plus agressif. Que si t'avais, tu sais, que si tu faisais pas confiance à ta tertiaire.
Ouais, et puis par moment, tu as mentionné de Sean Watson, j'en avais pas parlé. Mais par moment, on dirait qu'il essayait, ben pas il essayait, il tentait d'en faire un peu trop. Là. Je sais pas si c'est à cause d'affronter le mort.
Ouais, c'est ça.
Il disait, OK, moi aussi, il faut que je sois spectaculaire. Mais c'est ça, il essayait d'acheter du temps, puis là, finalement, bon, victime de sac du corps. Les Texans, ils vont pas avoir beaucoup de temps pour se remettre de cette rencontre. On en parlait avant de commencer l'enregistrement. Ils jouent dès jeudi soir, ils vont recevoir les Colts d'Indianapolis à l'enjeu, le premier rang de la section sud de l'Américaine.
Je pense qu'ils sont chez eux. Mais tu sais comment que c'est, quand tu affrontes une équipe physique, tu sais, les Ravens ont couru 36 fois pour 263, tu sais, ils ont passé sur le corps des Texans. Là, tu joues dans une semaine courte. J'ai hâte de voir le niveau d'énergie des Texans.
Puis là, tu affrontes un gros signe à l'attaque des Colts.
C'est ça, j'allais dire. Et les Colts sont équipés pour faire ce que les Ravens, tu sais, pas de la même façon, mais ils sont capables de courir pour être physiques. Alors, on va dire de quoi les Texans, là? J'ai hâte de voir physiquement.
J'ai hâte de voir ça.
Comment s'ils vont être en mesure d'avoir l'énergie et d'être capable de soutenir tout ça.
Oui, non, c'est vraiment des bons points que tu amènes. Alors, la rencontre jeudi soir entre les Texans et les Colts vous sera présentée, bien sûr, sur les zones de RDS. Maintenant, les 49ers de San Francisco, eh bien, ils ont été en mesure de rebondir. Après avoir encaissé leur premier revers de la saison la semaine dernière aux mains des Seahawks de Seattle, bien, les Niners, ils ont gagné 36-26 contre les Cardinals, mais ça n'a vraiment pas été facile parce qu'à un certain moment, l'Arizona menait 16-0. Toronto. Exact. Ça, c'est une autre équipe qui est nettement améliorée comparativement au début de la saison.
Oui, qui est très compétitive. Malheureusement, là, la fiche n'indique pas le niveau de compétition que les Cars donnent à leur adversaire. 3 victoires, 7 défaites, 1 match nul. Mais c'est une équipe, c'est pas un 2 points facile. Là.
Non.
C'est juste les Cars. Non, les Cars sont très... Historiquement, ils sont toujours très compétitifs contre les 49ers. Oui,
c'est des matchs de section. On se connaît bien.
Mais moi, ce que je retiens encore une fois, là, c'est que... On parlait de Kirk Cousins tantôt, mais là, Garoppolo cette fois-ci. Ça fait quelques matchs, je pense que ça fait 3 matchs d'affilée, que Garoppolo, il n'a pas le choix que si le sort de l'attaque repose sur lui.
Ça fait 2 fois contre les Cardinals. Souviens-toi, on avait présenté le match.
Exact.
Le premier duel entre les deux équipes, c'était en Arizona. Encore une fois, le jeu au sol n'avait pas fonctionné. Exact. Puis là, Jimmy G a livré la marchandise. Puis les Cardinals, ils ont dit qu'ils sont améliorés, mais là, encore une fois, ils ont complètement arrêté l'attaque au sol des Niners.
Hey, 19 courses, 34 verges en 19 courses.
Écoute, quand j'ai vu le résultat à la fin, les statistiques, j'en revenais pas, de limiter l'attaque au sol des Niners à 34 verges, c'est vraiment incroyable.
Fait, c'est sûr que ça, c'est décevant pour l'attaque au sol de San Francisco, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à découvrir que notre carrière peut livrer la marchandise.
On peut gagner d'autres façons.
Ils ont perdu en prolongation là, contre les Seahawks, puis il n'y avait même plus de receveurs, mais il y avait quand même, il avait tiré son épingle du jeu, puis je regardais les 3 derniers matchs, il a tenté 37 passes, 46 passes, 45 passes, c'est les 3 plus hauts au total, 9 passes de toucher, 3 interceptions.
Mm-hmm.
Donc, il est capable de prouver là, que, regarde, si le jeu au sol ne fonctionne pas, si l'adversaire veut vraiment arrêter notre jeu au sol, on est capable de lancer le ballon, on est capable de gagner avec le bras de Garoppolo. Ça, je pense que c'est intéressant parce que plus tu vas avancer, puis si tu prends participer aux éliminatoires, ben on s'entend que tu vas affronter des bonnes unités défensives qui vont t'enlever ce que tu fais bien.
L'expression en anglais, tu dois être capable de gagner avec ta main gauche également. Là. Tu ne peux pas juste gagner avec qu'est-ce qui est ton pain et ton beurre. Garoppolo, bon, il avait commencé lentement. Il avait été victime de 2 interceptions dimanche contre les Cards. Mais ensuite de ça, écoute, 424 verges, 4 passes de toucher. Alors oui, il a bel et bien répondu à l'appel. C'est finalement un toucher de Jeff Wilson avec 31 secondes qui a donné l'avance pour de bon aux 49ers. Alors, on va donner crédit aux Cardinals d'Arizona. Moi, je n'y croyais pas personnellement à Cliff Kingsbury en tant qu'entraîneur-chef au niveau de la NFL. Mais jusqu'à présent, écoute, au moins, il y a de l'espoir en Arizona.
Kyler Murray, 2 passes de toucher, couru pour un toucher. Il se débrouille quand même pas pire. Là. Puis, c'était la défensive des 49ers. Là. On s'entend, c'est une bonne
c'est ça.
Défensive, un bon fond défensif.
Oui.
Alors, c'est intéressant.
Oui, alors on va voir si les Niners, eux, qui sont dans la course avec les Seahawks pour le premier rang de la section, les Seahawks qui continuent de les talonner. Seattle avait congé cette semaine. À Oakland, les Raiders ont été déçus par la marque de 17-10 contre les Bengals. Ça a été plus serré que prévu, cette rencontre-là. Mais pour moi, j'ai noté, écoute, qu'Oakland a passé le test. Là, tu vas me dire, un test contre les Bengals de Cincinnati, il n'y a pas de test seul. Les Bengals qui n'ont aucune victoire, pire équipe de la NFL. Mais justement, la semaine dernière, on a eu une grosse victoire du côté des Raiders contre nos rivaux de section, les Chargers. On a été en mesure de l'emporter. Le match était à Oakland. Tu as vu John Gruden après le match qui donnait des high-fives aux partisans dans le Black Hole. Bon, ça faisait une belle scène. Là, je me disais, est-ce qu'il va y avoir un relâchement lorsqu'on va affronter les Bengals la semaine suivante? Je sais, on a juste gagné par 7 contre Cincinnati, mais l'important, c'était de ne pas perdre ce match-là. Et on l'a remporté.
On appelle ça un test de maturité.
Et oui, voilà. Exactement.
Parce que c'est ça, en bout de ligne, c'est de ne pas jouer au niveau de ton adversaire, puis c'est de te présenter à chaque match. Moi, quand je pense aux Raiders, moi, à chaque quelques matchs, là, je regarde leurs statistiques, puis je regarde qui ressort du jeu. Puis qui a fait des gros jeux, puis qui a livré des bonnes performances. Puis moi, ça fait plusieurs semaines, Didier, que c'est les nouveaux joueurs, c'est la jeunesse.
Moi,
c'est
il y a un joueur que pêchage. J'aime, je vais voir si tu vas nommer
Max
son
Crosby.
Nom.
Oui, ben oui,
il est défensif, ben oui.
Hey, danse au bout, là. Écoute, hey, 4 sacs du corps, lui, qui frappait 4 fois le carrière adverse. Josh Jacobs a bien fait. Hunter Renfrow a bien fait. Trayvon Mullen, l'interception. Choix de 2e ronde. Alors, choix de 4e ronde, choix de 1e ronde, choix de 5e ronde, choix de 4e ronde. Soit des choix repêchage de cette année.
Oui, oui, oui.
Et à chaque fois que je regarde une victoire des Raiders, je vais toujours voir qu'est-ce que les petits nouveaux ont fait. Puis les petits nouveaux produisent tout le temps.
Oui.
Moi, je trouve ça encourageant. Alors, on va dire de quoi, là, on a fait du bon boulot de ce côté-là.
Oui, il faut donner crédit à Mike Mayock, le directeur général. Bon, tu sais, tu es analyste avant NFL Network. Personnellement, moi, c'est un de mes analystes favoris à la télévision. Mais lui, finalement, il a fait ce qu'il disait toujours lorsqu'il travaillait pendant l'analyse. C'était un des gourous du repêchage. Lui, il disait tout le temps qu'il donnerait la priorité aux joueurs de caractère. Puis c'est ce qu'il a fait au niveau de son repêchage. T'as cherché des joueurs de caractère, Hunter Renfrow avec Clemson.
Ouais.
Alors tous ces joueurs-là, puis là, ça rapporte. Puis j'espère que John Gruden va avoir compris la leçon qui est la suivante. ça ne vaut pas la peine de mettre sous contrat des joueurs comme Antonio Brown, Vontaze Burfict, des cas à problème. Oui, ils sont très talentueux, OK, on s'entend là-dessus, mais regarde, ils ne sont pas là. Puis ils ne manquent pas aux Raiders. Les Raiders sont en mesure de gagner.
Puis ils sont en train de chauffer les Chiefs.
Oui,
ils sont en train de chauffer
les Chiefs.
Les Chiefs,
là, doivent regarder en arrière là, maintenant. Là. ils sont installés au premier rang de la section. Ils pensaient que le premier rang était destiné à leur appartenir. Mais non, ça n'a pas été le cas. Alors, belle victoire des Raiders. Ouais. Je sais, c'est contre les Bengals. C'est seulement par 7 points. Mais comme tu l'as dit, ils ont passé le test de la maturité, comme tu as si bien dit. Bon, il nous reste deux matchs à analyser maintenant. Les Patriots ont défait les Eagles 17-10. La rencontre avait lieu à Philadelphie. Pour moi, les Patriots auraient dû gagner par plus. Trois fois, on s'est présenté près de la zone début en première demi. On a dû se contenter de placement. Oui, on a gagné. Mais afin de produire un toucher, on a dû avoir recours là, à des jeux truqués. Deux fois, on a utilisé des jeux truqués durant le match. Finalement, ça a été une passe de toucher de Julian à Edelman qu'on a eue. Pour moi, ça démontre qu'on n'est pas explosif du côté de l'attaque.
Il faut coacher fort.
Oui, c'est ça. Quand tu es rendu, tu sors la double passe.
C'est pas l'équipe la plus talentueuse en attaque. On a eu toutes sortes de problèmes. Bien, les receveurs, c'est la chaise musicale, la ligne à l'attaque.
Et tu te souviens quand les gens disaient, pourquoi ils font l'acquisition d'Antonio Brown? Bien, c'est pour ça. Là.
Ouais.
On savait qu'on avait un manque à la position de receveur.
Moi, ce que j'avais hâte de voir dans ce match-là, Didier, c'est que les Eagles venaient de gagner quelques matchs. Puis c'était surtout en raison de leur jeu au sol qui était dominant. Quand les Eagles gagnent cette année, c'est parce que le jeu au sol est dominant. Ouais. Les Patriots venaient de se faire traverser par les Ravens. Bon, les Ravens font ça à pas mal tout le monde. Mais les Patriots...
Même les matchs précédents, Nick Chubb avait amassé quoi, 130 verges contre les Patriots, notamment.
Là, je me disais tout de suite, moi, c'est ça que je vais voir. Est-ce que la défense des Patriots peut colmater les brèches? Est-ce que la défense des Patriots peut arrêter le jeu au sol, mettre la pression sur Wentz? Puis moi, j'avais hâte de voir Carson Wentz. Pour moi, ça, c'était un match important pour Carson Wentz. C'est le sauveur. On lui a donné un gros contrat. C'est l'enfant chéri. C'est pas lui qui a gagné le Super Bowl avec les Eagles.
C'est Nick Foles.
Alors moi, dans ma tête, je disais, Carson Wentz, match contre les Patriots, c'est un match, let's go. Livre-moi la grosse performance.
Alors, c'est quoi la note que tu lui donnes?
Ben, écoute, il a complété 50% de ses passes. Il a été varlopé à quelques reprises. Il a échappé un ballon. Ses armes n'étaient pas toutes là.
C'est ça, c'est ce que j'allais dire.
Jeffrey n'était pas là.
Mais ça, on parle du groupe de receveurs des Patriots, mais on n'est pas mieux nantis du côté des Eagles de Philadelphie. Là, sans Jeffrey, sans DeSean Jackson, qui a joué seulement un match un match et demi cette année, il n'y a pas de vitesse à la position de receveur. Ouais. Leur meilleur receveur s'est rendu à Sean Jeffrey. Enfin, leur meilleur receveur des Eagles, ce sont leurs ailiers rapprochés, Goddard et Zach Ertz. Donc, c'est pour ça que j'ai de la misère à lancer des pierres à Carson Wentz à cause de ça.
Puis c'est pour ça que je me disais aussi que le jeu au sol devait faire la différence parce que tu prends les demi-défensifs des Pats contre le groupe B des receveurs des Eagles.
Ouais.
On va être capable de les surveiller. Donc, le jeu au sol devenait super important. On n'a pas été en mesure de le faire, de l'établir comme on voulait. Puis c'est drôle. Je pense que c'est la première fois. J'ai-tu vu ça que c'était la première fois dans la carrière de Tom Brady qu'il terminait un match puis c'était pas lui qui était meneur au chapitre des passes de toucher dans ce match-là pour son équipe.
Ah oui, ça se peut, c'est possible.
Edelman a une passe de toucher, Brady n'en a pas. Je pense que c'est la première fois que dans une feuille de statistiques, qu'il y a un gars chez les Patriots qui a plus de passes de toucher que Tom Brady dans le match.
Ah ben ça se peut, regarde, c'est fort possible. Là.
Ben c'est ça, Puis tu sais, c'était drôle de voir le petit sourire en coin de Bill Belichick, qui était fier de son coup, le toucher d'Edelman à Dorsett. Là.
Ah oui, non, ça c'est certain. Ben surtout que les Eagles avaient parlé contre les Patriots. Après leur victoire au Super Bowl, notamment le bloqueur à droite, Lane Johnson, avait dit « Ah, je préfère avoir juste une bague du Super Bowl comparativement à 5 ». Ça, c'est avant le sixième championnat des Patriots. Mais au moins, ici, on s'amuse comparativement à la Nouvelle-Angleterre où ils sont malheureux. Je vois si ça veut. Bill Belichick a fait allusion à ça durant son point de presse. Il a dit, en répondant à une question de sa performance des Eagles, ils ont bien joué, ils ont fait une bonne performance. Je suis content qu'ils s'amusent là-bas. Il a juste continué, mais il a juste mentionné ça en passant. Je suis content qu'ils ont du fun. Comme les Johnson, ils disent, ils ont du fun. Ben, je suis bien content pour eux autres. Mais ça va être surveillé du côté des Patriots, la position de receveur de passe. Et puis, les Eagles de Philadelphie, on l'a dit tout à l'heure, les Cowboys ont gagné. Les Cowboys ont augmenté leur avance en tête de la section S de la Nationale. J'avais noté aucune vitesse à la position de receveur pour les Eagles. 3 en 13 en situation de troisième essai.
Et pourtant, c'est monsieur troisième essai, Carson Wentz, là.
Peut-être faudrait dire ça l'était. Maintenant, il faut parler au passé parce que c'est plus ça. Là, lui qui est en 2000, c'est quoi? C'est il y a deux ans, en 2017, le troisième essai, il était en mesure de les convertir. Et les Patriots, avec cette victoire-là, Pierre, sont assurés d'avoir une fiche gagnante pour une 19e saison de suite. Imagine-toi. 19e saison de titre. Mais c'est pas un record. Le record appartient aux Cowboys de Dallas de l'époque de Tom Landry.
Oh boy, okay.
Je crois que c'est à 20 ou 21 saisons consécutives. Alors, on va voir ce que ça va donner là, du côté des Patriots au mois de janvier. On va, Nicole Harry, choix de premier rond, receveur de passe, il prépare un match. Il est ennuyé par des blessures. Donc, on a des ressources. On va voir ce que ça va donner. Dans la dernière rencontre qui était présentée dimanche, oui, dimanche soir, bon, c'est un match, je ne vais pas vous blâmer si vous êtes couché, si vous n'avez pas regardé le match au complet. Puis, c'est vraiment difficile à regarder. Le Rams-Bears, j'étais avec Bruno en studio. Deux carrières, finalement, les Rams ont gagné 17-7. Mais les deux carrières, Mitchell Trubisky et Jared Goff, c'était pas beau à voir. On va commencer avec Mitchell. OK? Parce que la fin de la rencontre, si je me le permets, on l'a retiré du match. On dit que sans raison d'une blessure à une hanche.
À la fin du deuxième quart.
Oui, à la fin du deuxième quart, oui, c'est vrai.
Apparemment. Puis qu'il lançait juste avec son bras en deuxième demi. Ouais. Qu'il ne voit pas vraiment.
Là, ça expliquerait pourquoi il en arrachait. Qu'est-ce que tu penses de ça?
En partant, un de ses plus gros problèmes, c'est son jeu de pied. Fait que si jamais. Blessure à la hanche ou pas, là, il y a toujours du mauvais jeu de pied. Puis c'est toujours. C'est toujours une boîte à surprise quand il lance le ballon. Puis moi, ce qui. Encore hier, là, je regardais. Moi, ce que je comprends pas, là, à un moment donné, je dis toujours l'expression, on peut-tu à un moment donné enlever les petites roues sur le bicycle, là, les petits training wheels, là, tu sais, les petites roues, là, on n'est pas capable d'enlever les petites roues
on
sur le vélo
passe.
De Trubisky. C'est toujours, hier, 4,4 verges par passe tentée.
Mais c'est ça, est-ce que c'est parce que tout simplement Nagy n'a pas confiance en lui?
Ben ouais, moi, je pense que c'est ça. Il y a une partie du système, il y a une partie qui regarde et il ne fait pas confiance. C'est combien de passes il fait vraiment à partir de la pochette? Des vraies passes de carrière professionnelle, il n'en fait pas beaucoup là, parce que c'est souvent des bubble screens, c'est souvent des passes pièges, c'est souvent en mouvement, c'est souvent des RPOs.
C'est comme une attaque au niveau du football collégial ou de l'école secondaire. Mais c'est parce que clairement, du côté des Bears, on ne croit pas qu'il est en mesure de le faire.
Combien de fois cette année, là, on refusait de faire un jeu supplémentaire en attaque parce qu'on avait peur qu'on cafouille. Ouais. Là, il faisait un botté après.
Contre les Chargers.
Alors, tu sais, c'est des messages, à un moment donné. Des fins de demi, on met le genou à terre, on rentre, puis c'est comme, OK, c'est particulier. Mais tu sais, pour mettre ça en perspective, 4,4 verges là, par passe tentée, quand tu rentres dans le top 10 de la NFL, là, c'est tout en haut de 8 verges. Là. C'est quasiment deux fois plus.
Non, mais c'est ça, là, c'est alarmant. Là. C'est vraiment alarmant, là, c'est incroyable. Là. Mais écoute, dans mes notes, j'ai noté quelque chose que tu as mentionné lorsque tu analysais le match, puis j'étais tellement d'accord avec ça. Tu parlais du monstre à trois têtes qu'on avait du côté des Bears autrefois dans le champ arrière. Avec Jordan Howard, Tariq Cohen et Mitchell Trubisky. On parle d'un monstre à trois têtes pour courir avec le ballon. Puis c'est tellement vrai que ce que tu disais, bon, Jordan Howard n'est plus là, je ne sais pas pourquoi il ne faisait pas l'affaire à Chicago. David Montgomery, est-ce qu'il est vraiment meilleur que Jordan Howard? Personnellement, je ne trouve pas. Je sais que la ligne à l'attaque, elle ne bloque pas super bien. Mais quand même, l'utilisation de Tariq Cohen, comparativement aux dernières années, on ne l'utilise pas de la même façon. Et Mitchell Trubisky, on ne l'utilise pas de la même façon. Il ne court plus autant.
Il ne court pas du tout, même.
Ben non, mais c'est ça. Me semble on devrait l'utiliser comme les Bills font avec Josh Allen. Josh Allen n'est pas un grand passeur. On reconnaît ça. Mais on reconnaît qu'une de ses forces, ce sont ses qualités athlétiques. Puis on lui donne le feu vert pour courir. Ouais. Je ne sais pas pourquoi on ne fait pas la même chose avec Trubisky.
En préparant le match hier soir, quand j'ai vu ça, là, l'an passé, Trubisky avait 411 verges au sol. Mm-hmm. Avant le match hier, il y en avait 54.
Wow.
C'est. Fait que j'imagine les 54, c'est juste des scrambles, là, des jeux de passe qui n'ont pas fonctionné. Puis là,
pas des jeux de course planifiés pour le carrière.
Non, regarde ça. Moi, je pense que ça, il faut que ça fasse partie de l'équation. Jeux au sol.
Ouais. Moi, je retirais à Nagy sa carte du membre de gourou en attaque. Ouais. Là. Parce que vraiment, là, je vois rien de gourou du côté de l'attaque des Bears. On critique beaucoup Trubisky, mais c'est l'attaque en général.
Oui, puis en plus, là, hier, on a manqué d'opportunisme. Là, combien de bottés ratées? Deux bottés ratées. On est au 31, puis on décide de ne pas faire de botté parce qu'on n'a plus confiance en notre batteur qui en a déjà raté un. On a laissé beaucoup de points sur le terrain. On n'a pas marqué de toucher après l'échappée de Gurley. On n'a pas marqué de points après l'échappée de Gurley, pas de points après l'interception de Goff. Mm-hmm. Puis là, tout d'un coup, les Rams se sont calmés, puis ils ont parti la machine. Todd Gurley a gagné son meilleur match. Goff en a juste fait assez.
Oui, parce que Goff, c'est ça. On n'a pas parlé de Trubisky, là, c'est sujet facile, mais Goff, c'est pas vraiment mieux, là. Compléter non passe à Cooper Cup, mais à part de ça.
Tu regardes le contrat qu'on lui a offert, là, on essaie d'en avoir plus. Là, c'est rendu qu'on gagne avec
Goff. C'est un albatros, ce
contrat. On gagne avec Goff. On devrait être capable de dire on gagne grâce à Goff.
On lui a donné un contrat de carrière de concession. Et clairement, il ne l'est pas. Il n'est pas capable de transporter l'équipe Alors, en tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans les années à venir du côté des Rams. Le contrat à Todd Gurley également, le fait qu'on n'a plus de choix de première ronde, je pense, jusqu'en 2022, ouais. Quelque chose comme ça. Non, comme ouais, situation, ouais. C'est inquiétant. Là.
Et qu'est-ce qui se passe avec les batteurs à Chicago, Didier?
Ben, écoute, c'est l'histoire qui
la
se gang, répète.
La gang
ben,
de la Robbie gang, Gold. Mais on peut dire qu'on a laissé Gold ouais. partir, il n'y a plus rien qui se passe.
Oui, non, c'est ça, la gang de Robbie Gold, la gang à la position de carrière qui dure depuis ouais. 50 ans, mis à part Jim McMahon, ça fait partie des histoires des Bears de Chicago. Ouais. Bon, ben écoute, hey, on a fait le tour de la wow. Ligue canadienne, de la NFL. Alors écoutez, j'espère que cet épisode du podcast Le Sac du Cœur vous a plu. Pierre, encore une fois, je te remercie d'être passé en studio afin d'enregistrer, de participer ouais. au podcast. Et on se reparle la semaine prochaine.